Femmes novatrices avec Sophie Nanin.
Bonjour Amandine.
Bonjour Sophie.
Ravie de vous accueillir. Alors, je vois que vous êtes très attachée, forcément liée à l'histoire, mais très attachée au savoir, transmettre notamment aux enfants. Mais là, je pense que peut-être en premier, même si vous êtes, vous, de votre côté, égyptologue et mythographe, une passionnée, c'est évident, où le métier est quand même connu. Mais est-ce que vous pouvez expliquer tout de même, parce qu'il est large, sur égyptologue, à quoi ça correspond? Parce que c'est un temps, mais une passion, c'est certain. Mais c'est presque 365 jours que vous opérez sur le sujet.
Oui, tout à fait. Alors en fait, le métier d'égyptologue est effectivement très large. Alors on va dire qu'il y a les égyptologues traditionnels en France, dont je ne fais pas partie.
Donc atypique, voilà. C'est ça? Vous êtes sur le côté. Ok, voilà. Enfin, sur le côté, pardon.
Il y a des chemins qui ont été tracés pour des personnes et ça leur conviendra tout à fait. Ce que je visais quand j'étais plus jeune, c'était le CNRS, c'était de faire de la recherche. Donc voilà, la première possibilité, c'est celle-là. La seconde, c'est de travailler à l'université. La troisième, c'est de travailler en musée. Et en fait, moi, il y avait trop de choses qui me plaisaient. Je ne voulais pas choisir. Parce que quand on fait de la recherche, la partie de transmission des connaissances que j'adore faire, moi, j'ai tellement de plaisir à apprendre. J'ai envie, en fait, que les gens ressentent ce même plaisir, aussi bien les enfants que les adultes. Et donc, cette part de transmission, elle n'était pas possible si j'étais chercheuse au CNRS. Elle était limitée à la fac. À la fac, effectivement, on va transmettre, mais à des étudiants, c'est pas forcément le grand public. On n'a pas forcément beaucoup de temps non plus pour faire de la recherche. Et moi, je voulais aussi faire de la recherche. Et puis, dans les musées, c'est quand même un autre monde. Ça m'intéressait un peu moins. Donc, l'idée était, en fait, de me faire ma propre voix et de ne pas, en fait, me limiter. Très souvent, on me disait... Tu veux faire quoi comme métier? Puis je me dis, mais en fait, il y a plein de choses. Et on me disait, mais il faut choisir. Mais pourquoi, en fait, il faut choisir? Et moi, du coup, j'ai tout choisi. Donc, moi, j'ai une quinzaine de métiers qui, effectivement, en termes d'égyptologie, vont se décliner en recherche. Donc, je fais de la recherche pour écrire des livres pour les adultes, des livres pour les enfants, des articles scientifiques, des articles plus grand public pour des magazines comme, par exemple, Archéologia. Ça va être aussi une partie de transmission avec des voyages, avec l'agence Nomade Aventure qui partage les mêmes valeurs. J'accompagne des groupes, donc ça peut être des voyages spécifiques pour les familles, des voyages tout public. Et là, c'est magique parce qu'en fait, je vais sur des lieux que j'adore et on me paye pour raconter des choses que j'adore raconter aux gens et émerveiller les gens.
Vous faites rêver avec votre histoire. Ouais. Mais vous êtes donc toulousaine?
Oui, tout à fait.
Vous vous êtes dirigée en Égypte au début. Comment vous avez été accueilli? Il y a quel savoir? Parce que là, docteur en égyptologie, là, c'est combien d'années d'études?
Comment
vous
savez? C'est un bac plus 13.
Je m'attendais à ça, un chiffre important, mais pas autant que celui-ci. Et comment vous avez donc enchaîné? Comment vous avez été donc accueilli? Et sur quels travaux, fouilles? Parce que égyptologue, c'était ma question de démarrage sur le métier. Il y a un métier effectivement de fouille, il y a architecte. Donc sur place, quelles sont les missions que vous avez eues en parallèle dans ces 13 années pour pouvoir apprendre le métier? Comment ça s'est opéré?
Alors, de fait, comme le métier d'égyptologue est très varié, puisque à l'intérieur, donc parce qu'au niveau des chercheurs, par exemple au CNRS, on peut avoir des architectes, donc qui sont spécialistes de l'Égypte ancienne, on peut avoir des anthropologues, on peut avoir des céramologues, des spécialistes de la céramique. Donc en fait, on va avoir toutes sortes de déclinaisons, on peut avoir les épigraphistes, qui sont les spécialistes des textes. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs sous-parties dans le milieu. Moi, donc, j'ai commencé déjà en faisant des fouilles en France, à l'étranger. Déjà pour en fait avoir une formation d'archéologue, parce que bon, c'est ce qui me plaisait. Donc, j'ai fait des chantiers de fouilles en France, en Angleterre, en Grèce, en Égypte, logiquement. Les livres, donc, étaient pour moi en fait à la fois une combinaison de la recherche et de la transmission de savoir, qui est vraiment ce que j'adore. Ça s'est fait très jeune. Et j'ai commencé à l'écrire, j'avais 14 ans et demi. Je l'ai publié, j'avais 16 ans et demi. Donc c'était sur des légendes pas très connues de la mythologie grecque, puisque mes deux spécialités, c'est l'Égypte et la mythologie grecque. Et donc ça aussi, ça s'est fait, en fait, je dirais, de façon naturelle. Ensuite, il y a aussi des opportunités de travail, quand on m'a proposé de faire des articles pour des revues, ou donc de travailler pour des agences. Donc c'est très varié.
Et par rapport à cela, donc, au niveau, vous disiez, des jeunes, alors il y a eu des actions, enfin il y a encore des actions, nomade, bien évidemment, aventure. Et là, j'invite les auditeurs à aller sur le site web. Et effectivement, il y a des dates assez fréquentes de vos départs. C'est pour ça que c'est une organisation, quand même, au niveau de votre planning, qui est quand même très structurée, j'imagine, de votre côté. Parce que vous, vous faites aussi des visites guidées sur Toulouse. On peut vous retrouver sur Toulouse.
On a les scolaires, voilà, les écoles, les collèges peuvent me commander des visites guidées au musée Georges Labi. Alors qui, bon, pour l'instant, est fermé, mais donc pour visiter, en fait, la collection égyptienne.
D'accord. Et en lien avec les enfants, ce que j'ai pu voir, c'est que justement sur les hiéroglyphes, vous avez écrit notamment un livre « Bienvenue à l'école des petits scribes » que j'ai trouvé super parce que capter leur attention n'est pas simple. Je vois que vous avez fait ça, donc réaliser ce livre avec un illustrateur. Donc il y a vraiment un livre d'animation et vous avez réussi à les faire rêver, ça c'est certain, mais surtout à transmettre, qui est quand même votre mot-clé, au niveau de cette histoire, hein, et de pouvoir capter et de réussir à les avoir, parce qu'ils sont assez fidèles, assez fans hein, de ce que vous faites, oui. Vous êtes assez suivis. Donc là, vous le continuez, il y a des projets que vous voulez développer avec eux là, sur
alors,
cette...
C'est vrai que pour les enfants, bon, déjà, je pars du principe qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour aimer apprendre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème en France, c'est que pour beaucoup, apprendre, c'est fastidieux, c'est scolaire, et en fait pas du tout, apprendre ça peut être génial. Donc l'idée est en fait à la fois d'intervenir dans les classes, donc pour des initiations hiéroglyphes ou bon, toutes sortes de sujets qui peuvent intéresser les enfants, d'aller plus loin par le biais de livres, donc effectivement le Bienvenue à l'école des petits scribes.
Oui, parce qu'il y en a pas mal hein, que vous avez
écrit. Oui, voilà, il y en a plusieurs, voilà, des livres de contes, de fables, de légendes. Il y a aussi deux chaînes sur YouTube, dont une chaîne qui est faite spécifiquement pour les enfants, Nefertitube, où là aussi on peut faire des initiations hiéroglyphes, découvrir les dieux, les pharaons, la vie quotidienne. Et en fait, il y a tellement de possibilités finalement d'intéresser les enfants, ou pas les enfants d'ailleurs, à l'Égypte ancienne, que voilà, j'essaye en fait de décliner ma passion sous voilà, différents aspects pour justement arriver à susciter ce plaisir d'apprendre.